Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal. Chers auditeurs, bonjour. Dans l'épître de Jacques, il est dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Par contre, l'apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, leur dit ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Existe-t-il une contradiction entre ces deux passages de la Bible? Non, car un examen même superficiel démontre aisément qu'en réalité Jacques et Paul parlent de deux genres d'œuvres tout à fait différentes. On comprend à la lecture de l'épître de Jacques que ce salut par les œuvres dont il est question est loin d'être ce que les hommes se sont plu à en faire. Les œuvres ne représentent nullement ce que l'on désigne généralement par les bonnes œuvres ou encore les bonnes actions des gens bien pensants. Non, il s'agit en réalité des œuvres de l'obéissance. Et dès que l'on adopte ce point de vue qui correspond à la réalité des faits, on s'aperçoit que le passage de Jacques, chapitre 2, verset 24, et d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10, sont en parfaite harmonie. Paul, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, dit lui-même à plusieurs reprises que l'on est sauvé par les œuvres de l'obéissance. Il dit notamment aux Thessaloniciens, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face de Dieu et de la gloire de sa force. Aux Hébreux, l'apôtre Paul dit d'ailleurs encore que Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. L'apôtre Paul, dans le passage qui semble être en contradiction avec Jacques, nous met en garde contre ce que nous pourrions appeler les œuvres de notre propre justice, ce qui est tout différent. Personne ne peut se sauver lui-même. Autrement dit, on ne peut mériter son salut en accomplissant beaucoup de bonnes œuvres ou de ces bonnes actions dont je parlais tout à l'heure. On entend trop souvent des phrases telles que « Oh, j'ai soigné mon mari impotent durant 20 ans, j'ai maintenant mérité le ciel. Après toutes les épreuves que j'ai subies, le Seigneur ne peut faire autrement que de me sauver. » Ou encore, si Dieu ne me sauve pas après tout ce que j'ai fait pour mon prochain, alors personne ne sera sauvé. C'est précisément contre ces fausses conceptions que réagit Paul, en disant que ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé. Il est entièrement d'accord sur ce point avec Jacques et les autres écrivains du Nouveau Testament. Ils disent tous qu'on ne peut être sauvé que par les œuvres de l'obéissance et non par les œuvres de la justification personnelle. Penser pouvoir mériter son salut, c'est faire abstraction totale de la grâce de Dieu, qui est de donner à l'homme ce qu'il n'a précisément pas mérité. Quiconque croit que les œuvres qu'il a accomplies vont lui gagner, et j'insiste sur le terme « gagner » qui est très courant, vont lui gagner le ciel, se trompe lourdement, et même tragiquement. Alors pourquoi Jésus soit-il venu sur la croix? Cela n'eût pas été nécessaire du tout, mes chers auditeurs. J'affirme aujourd'hui qu'un nombre incalculable de gens ne connaîtront jamais la vie éternelle à cause précisément des œuvres de notre propre justice. Paul touchait vraiment au nœud du problème en disant que l'on n'est pas sauvé par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ève s'est condamnée par ses œuvres. Le livre de la Genèse nous montre le processus de cette perdition. La femme, dit ce livre, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. elle prit de son fruit et en mangea. Si Dieu lui-même lui avait dit d'en manger, c'eût été une œuvre émanant de la justice divine, et elle eût été justifiée en le consommant. Car elle s'est perdue en accomplissant les œuvres de sa propre justice, en offrant à l'Éternel des fruits de la terre au lieu d'un sacrifice animal conforme à la volonté de Dieu. Par contre, si ces fruits avaient été ce que l'Éternel demandait, lui aussi aurait été justifié par la justice de l'Éternel. Prenons le cas également de Nadab et Abihu, qui aussi crurent bien faire en substituant leurs œuvres à celles de Dieu. Et l'Ancien Testament nous dit que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il n'en avait point ordonné, continue le passage. Ainsi le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Le roi Saül, Moïse, Uzza et bien d'autres encore se virent condamnés par leurs propres œuvres, plus simplement parce qu'ils n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Saül offrit un sacrifice à l'Éternel en lieu et place des sacrificateurs. Moïse frappa le rocher pour en faire sortir de l'eau alors que Dieu lui avait dit de lui parler. Uzza porta simplement la main sur l'arche de l'Éternel alors que nul ne pouvait la toucher. Ces quelques exemples tirés de la Bible nous montrent bien que ces gens pratiquèrent leurs propres œuvres en étant persuadés que Dieu les approuverait ou qu'il admettrait pour le moins leurs bonnes intentions. Mais ce faisant, ils substituaient leurs œuvres à celles de Dieu, au lieu de tout simplement se soumettre à sa justice pour être justifiés à ses yeux. C'est parce qu'ils n'accomplirent pas les œuvres de l'Éternel qu'ils furent perdus. Les œuvres de l'obéissance dont parlent Paul et Jacques. Ce sont ces œuvres-là que l'Éternel veut que nous fassions. C'est à ce genre de personnes que s'adresse Jésus en disant « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse, continue Jésus. Le Fils de Dieu dit ici en substance, tout ce que l'homme bâtit selon sa propre sagesse sera détruit. Car c'est la sagesse divine qu'il faut appliquer et suivre, et non celle des hommes. Cette idée s'exprime et se prolonge dans d'autres paroles du Christ, quand il affirme encore, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voyez-vous, tout l'encens, toute la belle cérémonie, toutes les offrandes et toutes les mortifications du monde ne changeront rien au fait que nous ne pouvons compter sur nous-mêmes pour être sauvés, mais que nous devons compter sur la grâce de Dieu. Sa volonté est là. Il faut que nous nous soumettions inconditionnellement. Que veut dire Jésus par « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » Qu'il suffit de croire pour l'être ? Que quelqu'un peut croire à notre place au lieu, au jour et au lieu de notre baptême, en attendant que nous soyons assez âgés pour le faire nous-mêmes? Qu'il ne faut pas nécessairement être baptisé pour être sauvé? Non, rien de tout ça. Tout le monde est capable de comprendre cette simple phrase. Que veut dire l'apôtre Pierre quand il ordonne « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Qu'il ne faut pas se repentir avant d'être immergé? Que le baptême ne peut effacer les péchés? La grâce de Dieu nous a donné la marche à suivre, de manière à ce que nous puissions être sauvés par le canal de l'obéissance à sa volonté. Mais qu'en avons-nous fait? Allons-nous répondre à Dieu comme Caïn, à qui il demandait « Qu'as-tu fait de ton frère ?» et qui lui dit « Je ne sais pas ». Saul de Tarse, un jour, a rencontré son Dieu et lui a été ordonné de faire quelque chose pour être pardonné de ses péchés. Que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé, lave-lui de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Qu'allait-il faire? Suivre les penchants de son propre cœur pour faire ce qu'il estimait être suffisant pour être sauvé? Oh non, car peu auparavant il s'était écrié, que ferai-je Seigneur? Il s'agit de sa part d'une reddition, d'une entière soumission à celui qu'il appelle déjà Seigneur. Ce n'est pas par sa propre justice qu'il veut être sauvé, c'est par celle de Dieu. Les œuvres qu'il avait accomplies jusqu'à ce jour-là ne l'avaient mené nulle part, sinon à la perdition. Mais maintenant, il réalise qu'il faut qu'il pratique les œuvres de l'obéissance. C'est cela ce qu'il va faire jusqu'à la fin de sa vie. Vous connaissez sans doute l'histoire d'un certain Naaman, général en chef de l'armée syrienne, dont parle la Bible dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Cet homme fort et vaillant était hélas affligé d'une maladie terrible, la lèpre. Il entend un jour parler qu'un prophète de l'Éternel pourrait éventuellement le guérir. Il fait aussitôt le long voyage qui le sépare de la Palestine. Et Élisée, qu'il vient voir, lui fait alors dire, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Quelle va être la réaction de cet homme puissant et riche à qui le prophète ne peut même pas parler en personne? Écoutons la Bible. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Sa première impression est donc de constater qu'il n'a pas reçu tous les égards auxquels il croyait avoir droit. Mais écoutons la suite, car maintenant sa colère gronde. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il est venu de très loin, et voilà qu'on veut qu'il se lave dans le Jourdain. Sa réaction est compréhensible, ne trouvez-vous pas? Peut-être aurions-nous eu exactement la même, mais que va-t-il faire? La Bible dit qu'il s'en retournait et partait avec fureur. Il est donc persuadé en savoir beaucoup plus que celui vers qui il s'est rendu pour être purifié. L'histoire pourrait tout simplement s'arrêter là. De nos jours, des millions de personnes sont toujours dans le même cas. Elles sont rentrées chez elles et n'ont jamais été purifiées. Écoutons encore la Bible. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Si le prophète t'eût demandé quelque chose de bien plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? » Cette remarque des serviteurs est tellement logique que là encore, nous pourrions dire que dans son cas, nous aurions réfléchi. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Car il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole d'un homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Mes chers auditeurs, notre but est plus de vous faire réfléchir que de vous convaincre. Je suis persuadé que vous voyez très bien où je veux en venir. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Également vous envoyer le texte intégral à cette coterie, gratuitement en tant qu'un, nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure. Le Seigneur même, nous donne le souverain, le Seigneur même.